Bonjour à toutes et tous, curieuses et curieux, aboyeurs et renifleuses, secoureuses et câlineurs. Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse. Quelle bonne idée! Aujourd'hui, on parle de truffes, c'est la saison. Mais pas celle qui se mange, non. Aujourd'hui, on sort ses poils et son flair sans complexe et on parle de cette relation riche et singulière entre un maître et son chien. À quel point l'un ressemble à l'autre, à quel point la frontière est poreuse entre les humeurs de l'un et de l'autre, car si on parle souvent, et à juste titre, d'anthropomorphisme, quand on évoque les animaux, n'existerait-il pas un canimorphisme, pour parler des maîtres et des humains en général? Celui-là a du chien, quand celui-là est un vrai bulldog et montre ses dents, quant à celle-là, c'est une véritable Saint-Bernard, et l'autre ne cesse d'aboyer ses inepties. Bref, je ne vais pas éplucher tout le dictionnaire, je vais vous épargner tout ça, le dictionnaire des expressions canines. Dans cette émission, et à l'occasion d'une conférence qui sera donnée jeudi à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Germain, et qui est organisée par l'association IACA, on se penche précisément sur l'éducation canine. Pourquoi l'éduquer? Et donc, qui éduque-t-on, le maître ou le chien? Et peut-on vraiment comprendre et connaître l'animal? On en parle dans un instant avec Marie Lamarque, qui est éducatrice et comportementaliste canin. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et avec Claude Canner, qui est président de l'association IACA. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. On en parle dans quelques minutes après l'agenda. L'agenda qui n'est pas présenté par Clara. Mais par contre, qui est réalisé comme toute l'émission par Sylvain. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Et merci.
De rien.
On parlait à l'instant de canimorphisme, d'être hybride, peut-être même cannibalisé par d'autres. Franchissons un pas de plus et imaginons une invasion extraterrestre. En tout cas, c'est ce à quoi nous invite la médiathèque de Montpezat demain à 16h. Dans le cadre de son mois de la science-fiction, elle propose un atelier avec Olivier Pelletier, qui est illustrateur spécialisé dans la bande dessinée. Il travaille notamment pour le magazine Topo, les éditions Delcourt, et puis tout ce qui a trait à l'édition jeunesse, notamment Milan Presse, Astrapi, etc. Bref, l'idée de cet atelier, c'est de travailler collectivement à l'écriture d'un scénario sur une invasion extraterrestre. Et à l'issue de cet atelier, ou plutôt de ces deux ateliers, parce qu'on a eu un la semaine dernière dont on avait déjà parlé, il produira 4 planches de BD. Donc encore une bien chouette initiative de la part de la médiathèque de Montpezat. L'atelier est gratuit, ouvert à tous, à tous les âges, et il n'est pas nécessaire d'avoir participé au premier atelier. Donc si vous voulez plus d'infos, eh bien contactez la médiathèque de Montpezat. Un autre atelier demain pour faire émulser votre imagination. Cette fois, c'est à Aubenas, dans le cadre des animations urbaines. L'association Vie, qui met en place des projets d'éducation à l'environnement et de jardinage thérapeutique, propose demain après-midi, de 14h à 17h, un atelier botanique artistique. L'idée, c'est de produire des créations artistiques avec des éléments naturels, peinture végétale, carte nature, cyanotype, etc. L'animatrice, de toute façon, s'adaptera aux conditions météo de demain. Tu n'as pas déjà des informations pour la météo de demain, Sylvain ?
Alors demain, ça sera gris toute la journée.
Bon, merci. Si, pas de pluie, alors tout est permis. Là aussi, donc, cet atelier est gratuit, ouvert à tous, et c'est sans inscription. On termine avec la prochaine rencontre littéraire à la librairie du Château à Aubenas. C'est jeudi à partir de 19h avec Sandrine Chenivès pour la sortie de son livre « La forteresse des âmes mortes, voyage initiatique dans les montagnes taoïstes ». C'est édité chez Actes Sud. Sandrine Chenivès est psychanalyste transgénérationnelle, ethnologue, psychosociologue et écrivaine. Je rappelle simplement que la psychogénéalogie ou psychanalyse transgénérationnelle est jusqu'à preuve du contraire une pseudo-science et qu'elle est infondée. Mais sans doute, j'ai perdu ma feuille, sans doute que son livre, qui est une approche fictionnelle, hein, est sans doute plus complexe. Et ça résonne en tout cas avec des problématiques qui nous chatouillent de plus en plus, nous, celles de nos relations avec les morts. Donc c'est une fiction, je l'ai dit, qui nous plonge au cœur de la Chine des années 90 et d'une enquête sur la mort selon la tradition taoïste, avec des mondes qui s'entremêlent. Si vous êtes intéressé, il risque d'y avoir du monde, donc si c'est gratuit, il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux réserver auprès de la librairie du château de Benat, par mail ou par téléphone, ce type d'infos que vous trouverez sur internet. En tout cas, notez, c'est jeudi à 19h à la librairie du château de Benat. Voilà, les chiens ont-ils besoin d'une psychanalyse transgénérationnelle ? On se pose la question après une parenthèse musicale fort bien choisie par Sylvain, c'est Le Chien d'Aston Villa. Chien d'Aston Villa, issu de l'album Strange, c'était il y a 23 ans, c'était en 2002. Le chien, pour introduire notre sujet du jour, pourquoi l'éduquer, lui, le chien ? Ce sera l'objet d'une conférence qui aura lieu jeudi 30 à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Germain, proposée par l'association IACA. Et pour en parler, on est justement avec le président de l'association, Claude Caner. Et Marie Lamarque, qui est éducatrice et comportementaliste canin, qui animera cette conférence. Merci encore à tous les deux. D'abord, pour commencer, IACA, qu'est-ce que c'est ?
Alors IACA, c'est une association villadéenne, mais qui est ouverte à tous.
De la vie de Dieu,
il faut le préciser, c'est pas...
Oui, non, mais on n'est pas forcément tous...
Villadiennes.
Merci.
Donc oui, c'est une association d'aide, d'entraide, de services, de partage de savoir et de connaissances. Donc là, nous nous inscrivons tout à fait dans la deuxième partie. L'aide et l'entraide, ça fonctionne de façon informelle au niveau des adhérents. Bon, l'adhésion, c'est 10 euros par an. Et disons que l'entraide, ça fonctionne avec tout le monde, mais quand on prend une adhésion, on prend aussi une assurance, donc en cas de pépin. Bon, c'est jamais arrivé, mais on a une assurance qui couvre les frais. Puis si quelqu'un vient chez vous pour, je sais pas, changer un joint, parce que c'est tout à fait dans nos demandes, changer un joint dans le robinet, et qu'il s'arrive, c'est des travaux, il y a un pépin, ben on a une assurance, quoi, voilà.
Donc et solidarité, voilà. mais aussi
alors partage des savoirs. Donc pour se faire connaître, nous avons organisé plusieurs conférences, plusieurs débats, ainsi que des spectacles que nous animons le cloître de la vie de Dieu, et des débats qui sont variés autour de la santé, du jardinage, où il y a toujours beaucoup de personnes, mais aussi les projections de films de Jean Pichon, qui fait partie de l'association et qui a bien voulu nous les projeter gratuitement. Parce que toutes nos conférences, toutes nos actions sont gratuites et sont, comme on dit, au chapeau. C'est-à-dire, vous donnez ce que vous pensez, ce que vous pouvez, ce que vous pensez. Voilà. Donc, on arrive à vivre comme ça. On en est très heureux. On n'a pas besoin de beaucoup de sous. On fonctionne pour partager des bons moments et la culture que l'on a, oui.
Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sous, mais par contre, est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou...
Comme toutes les associations, on a besoin de bénévoles, et là, actuellement, on est à un tournant, ou dans un creux, plutôt, parce que là, je suis président, mais je suis président démissionnaire, des soucis personnels font que je me retire de l'association et il n'y a pas beaucoup de bonne volonté pour venir me succéder. Alors il y a un trésorier, il y a un secrétaire, mais personne ne veut être président, alors qu'en fait du bureau, c'est peut-être le plus facile parce que c'est celui qui a moins de boulot, quoi.
Et ben voilà. Mais il vient comme à la radio, souvent, voilà. Président. Mais voilà. il vient à la radio.
Il coupe il des
a son nom.
Il coupe des rubans. Voilà.
Ouais. Claude Caner. Ben merci Claude. Et donc là vous proposez cette conférence. Pourquoi l'éduquer ? Donc effectivement sur un sujet dont on parle assez peu.
Oui, alors comme à chaque fois, nos conférences viennent un peu de la fois d'avant et des gens qui nous disent « Tiens, j'ai rencontré telle ou telle personne, on a eu un monsieur qui est venu nous parler du Yeti, c'est pas commun, parce qu'il connaissait, c'est l'ours qui a vu l'ours, qu'il connaissait, qui a bien voulu venir nous conférer. » Et Marie, c'est un peu pareil, c'est Jean qui a mené son chien à... qui cherchait un éducateur et qui me dit « Ouais, cette fille est géniale, il faut faire qu'il faut faire... » Mais donc, allez, il n'y a qu'à, ouais. Voilà. Donc, on monte le projet, on fait la pub, on cherche une salle. Bon, là, c'est la salle de Saint-Germain, parce que les salles de la Ville Dieu sont indisponibles, mais on est très heureux de s'exporter à Saint-Germain. On a grandi un peu notre géographie.
Elle est géniale, oui, et elle est à côté de nous. Marie Lamarque, vous êtes, tu es donc éducatrice et comportementaliste canin. D'abord, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le métier, c'est éduquer et rééduquer tous les chiens. Donc, éduquer, ça peut aller juste du assis, couché, la marche en laisse, du rappel, des ordres classiques. Et de la rééducation, bah ça c'est quand les chiens ont des troubles du comportement, typiquement de l'agressivité, de la crainte, de l'anxiété de séparation. Et donc là, on les rééduque et on les réhabilite.
Quel type de chien, ou plutôt quel type de maître ? Enfin, on ne sait pas très bien, c'est ce que je disais en introduction, on ne sait pas très bien. D'ailleurs, vous éduquez qui ? Le maître ou le chien ?
Alors, les deux, mais vraiment plus le maître. Et même les maîtres, parce que souvent ça se fait en famille, soit c'est un couple, soit c'est une famille, ou alors une personne seule. Mais le travail est assez facile, j'ai envie de dire, qu'on a les bonnes méthodes et même rapides sur le chien. Et c'est vraiment avec le maître qu'on coach et où on a le plus de travail finalement.
Parce que donc, qui vient, quel type de chien viennent vous voir avec leur maître ?
Voilà. Alors, bon, en principe, c'est une démarche qui vient du maître. et ils viennent vers moi bah, parce que... Alors, il y a tout type de personnes. Il y a même des personnes qui m'appellent avant d'adopter un chien pour savoir exactement voilà, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place. Et ça, c'est vraiment super, c'est extraordinaire quand on m'appelle dans ces cas-là. Il y a des chiens qui ont juste des chiots, qui vont bien, mais qui ont envie de l'éduquer et d'anticiper des éventuels problèmes. Mais la plus grosse partie de mon travail et des gens qui m'appellent, c'est les gens qui ont des, enfin les chiens qui ont des problèmes de comportement et qui ont besoin d'une rééducation.
Et ça, c'est simple à rééduquer?
Alors, moi, j'ai pas de baguette magique. Ça veut dire, et des fois, on aimerait bien, mais ça marche pas comme ça. Ça veut dire que je ne viens pas et c'est pas magique, donc je rééduque pas le chien toute seule. C'est vraiment une équipe entre le maître ou les maîtres, le chien et moi. Et l'idée, c'est qu'on soit tous cohérents et qu'on aille dans la même direction. Donc, moi, pendant une séance, je vais donner des conseils, je vais montrer comment on fait, mais très vite, hop, c'est le maître que je coach et qui fait tout seul, jusqu'à temps que je me retire et qu'il puisse travailler l'exercice qu'on a vu en séance, tout seul jusqu'à la prochaine fois. S'il travaille pas entre les séances, malgré toute ma bonne volonté, forcément, les résultats sont très moyens. Donc, c'est facile, oui, mais ça demande quand même un suivi et de la volonté des maîtres et de l'investissement.
Et ça, c'est un processus qui dure combien de temps, à peu près?
Alors, en moyenne, on va dire, pour un trouble du comportement unique ou de l'éducation, on va être sur du 2 mois, 2 mois et demi. S'il y a de l'éducation plus du comportement, ou plusieurs troubles du comportement, on peut aller jusqu'à 4 mois.
À raison d'une séance par semaine, à peu près?
Une séance par semaine. Et c'est ce que, du coup, j'explique. C'est que si on se voit trop, alors, ils n'ont pas le temps de progresser. Et si on ne se voit pas assez, ils perdent les bons réflexes. Les maîtres, hein, du coup, ils retombent dans leur travers. Par exemple, si j'ai un chien qui se comporte mal avec les chiens, je vais éviter les chiens. Et ça, si je ne suis pas là pour les coacher, pour les amener à sortir leur zone de confort, ils reprennent vite des mauvaises habitudes. Donc une fois par semaine, oui, c'est bien, c'est la moyenne.
Oui, c'est ça, parce que donc il y a un petit film justement qui a été réalisé par Jean Pichon que j'ai pu visionner, où j'ai vu justement comment vous faisiez avec des maîtres et des chiens, avec des résultats quand même qui sont vraiment assez spectaculaires sur des chiens très agressifs à l'encontre d'autres chiens ou d'autres personnes et qui deviennent très très sociables. Donc la sociabilité, c'est vraiment primordial. Pour les chiens?
C'est ça. Moi, je pense que si tous les propriétaires de chiots avaient les bons conseils et faisaient les bonnes choses, parce que souvent, il y en a beaucoup qui font des erreurs, mais c'est de façon volontaire. C'est juste qu'ils n'ont pas les bons conseils. C'est pas de manière consciente. Mais si les gens qui ont des chiots font toutes les choses bien, on élimine 90% des problèmes des chiens que les chiens pourront rencontrer à l'âge adulte.
Parce que toutes les choses bien, donc ça veut dire les sociabiliser dès qu'ils le peuvent. Et souvent, quand on adopte un chien, il est en mesure d'être sociabilisé. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les tout premiers mois, comme pour les enfants.
Peut-être. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle la myélinisation du cerveau. Je le prononce sûrement pas très bien, mais c'est un nom un peu barbare. Et ça, c'est jusqu'aux 3 mois du chiot. Et malheureusement, souvent, les éleveurs et même les vétérinaires vont conseiller de pas sortir le chiot avant 3 mois pour des questions de vaccins et aussi pour des questions de squelette. Souvent, ils ont peur que le chien s'abîme le squelette en courant trop et tout ça. Et ça, pour moi, c'est des conseils qui font des dégâts affreux, en fait, sur le futur chien à venir, parce que c'est toute la période, justement, d'imprégnation. Donc, il faut jamais être dans le trop et dans le pas assez. Donc, il faut sortir son chiot. De toute façon, la primo-vaccination le protège quand même, et en plus, il a eu le lait maternel de la maman qui était vaccinée, donc on peut sortir. Dès 2 mois, il faut sortir avec son chiot, lui faire rencontrer un maximum d'humains, des humains différents, des enfants, des hommes, des femmes, aller dans des villes, des chiens, tout type de chiens aussi. Et puis la société, les voitures, les vélos, les joggeurs, ça c'est vraiment tout de suite de 2 à 3 mois. Si on le fait pas, tous les chiens sont bien sûr rééducables, mais si on le fait, on s'évite des problèmes.
Oui, parce que c'est ça aussi, enfin, vous me disiez en préparant cette émission, il y a une chose aussi à dire, c'est que il y a aucun âge ou aucune race qui n'est perdue, en fait. On peut rééduquer à tout âge et toute race de chien.
C'est ça, on éduque et on rééduque tout type de chien. Moi, je ne crois pas au délit de sale gueule. Il y a beaucoup d'éducateurs qui ne prennent pas des chiens catégorisés, tout ça. Ce n'est pas mon cas. Et ils ne sont pas plus compliqués ni plus dangereux que les autres. Et il n'y a pas d'âge non plus. Et d'ailleurs, dans mon expérience, j'ai jamais pu prouver qu'un chiot était plus facile à éduquer qu'un chien adulte. Ça, non. Et ce que je pense, par contre, c'est qu'il a eu plus de temps pour prendre des mauvaises habitudes. Mmh. Mais en fait, c'est ses maîtres qui ont eu plus de temps pour prendre des mauvaises habitudes. Donc c'est les maîtres qui finalement, ça sera plus long de rééduquer un maître qui fait des erreurs, entre guillemets, avec son chien depuis 7 ans, qu'un maître qui fait des erreurs depuis, parce qu'il a son chien depuis un mois.
Mmh. Et alors... Quelles sont, vous me disiez aussi, il y a plusieurs méthodes pour aborder justement l'éducation canine, un sujet, un domaine qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, quelles sont ces différentes méthodes et vous, quelle est la vôtre ?
Alors, on va dire qu'il y a trois courants de pensée. Le premier, c'est le 100% positif, il est interdit d'interdire. Si ton chien a envie de mordre un humain, bah, mets-lui une saucisse sous le nez et puis avec un peu de chance, ça passera. Et à l'inverse, il y a le courant qui est très avec des méthodes coercitives. Donc là, c'est tout est dans le non, tout est dans la force physique ou même des colliers étrangleurs, des colliers électriques, tout est dans voilà, c'est très compliqué. Ça existe.
Ça existe encore.
Ça existe encore et ça se voit beaucoup. Alors pas tous, attention, hein, ça se voit beaucoup dans les clubs, certains clubs, et ça se voit aussi avec des professionnels qui ont été formés dans ces méthodes-là. Et moi, je suis entre les deux. Ça veut dire que je suis dans la récompense.
Attention, vous êtes pas. Non, j'allais faire.
Non, je fais jamais de mal aux chiens. Mais en gros, moi, quand je veux dire que je suis entre les deux, c'est que je dis aux chiens non. Ça, il ne faut pas le faire. Alors, il y a des sanctions, du coup, qui sont douces. Ça veut dire que je ne rentre pas en contact physique avec le chien. C'est toujours dans le respect, mais en tout cas, j'impose des limites. Et après, il y a toute la partie récompense. Donc, tu as un mauvais comportement, non, je te sanctionne. Et ça peut être juste un petit peu d'eau sur la tête, mais il y a plein de façons de faire. Et tu agis bien, je te récompense avec ce qui te fait plaisir. Parce qu'il y en a que c'est la caresse, il y en a que c'est le jeu, il y en a que c'est la friandise, il y en a que c'est la liberté. Et vraiment, c'est d'être dans cette balance de c'est bien, là c'est pas bien, qui fait qu'en fait, ça, le chien comprend tout de suite ce qu'on attend de lui.
Mais ça veut dire que à chaque fois, enfin, tu t'adaptes, c'est vraiment, tu t'adaptes à la fois au maître, au chien dans sa personnalité propre et de là où il en est.
Oui, c'est vraiment des parcours individualisés, en fait. Il y a les grands courants, le chien apprend de telle manière, il y a telle méthode, voilà, les lois d'apprentissage, ça existe et elles sont valables pour tous les chiens, mais après, la manière dont on va les appliquer, c'est vraiment d'une manière très individuelle, et j'ai pas qu'une seule méthode, c'est pour ça que moi, tout se fait toujours avec les maîtres, hein, donc je vais prendre, rien que pour de la marche en laisse, je vais prendre leur chien devant eux, je vais tester plein de méthodes devant eux, et je vais dire, ah bah vous voyez, cette méthode, pour lui, ça marche mieux. Bon, bah, je vais vous l'apprendre. Et je teste plein de choses.
Est-ce qu'on peut vraiment connaître et comprendre son animal ? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quelquefois, ça se passe pas bien entre le maître et le chien. C'est-à-dire qu'on plaque des comportements qui ne sont pas réels. Enfin, on plaque ou alors on plaque nos propres comportements sur l'animal. Est-ce que c'est possible de bien connaître et comprendre?
Tu parlais tout à l'heure dans l'introduction d'anthropomorphisme. Ça, c'est un gros... Enfin, je vais pas dire que c'est une bêtise, parce qu'on le fait tous, mais en fait, c'est un piège. On va dire que c'est un piège. Et après, est-ce qu'il est totalement possible de comprendre son animal? On essaye de le faire au mieux, en tout cas. Et quand il y a un problème, il faut comprendre pourquoi il y a ce problème-là pour pouvoir agir sur le comment, du coup, on va le régler. Parfois, par contre, on n'a pas le pourquoi. Parce que, par exemple, les gens ont trouvé le chien sur la voie errante et finalement, il a développé une agressivité, mais on ne sait pas la cause. Donc, du coup, on le règle quand même. Mais c'est sûr que si on trouve la cause, c'est beaucoup plus facile. Et après, comment pouvoir bien comprendre son chien, ça se fait aussi avec l'expérience et à force, à savoir, ah tiens, il met les oreilles comme ça. Mais par exemple, un port d'oreille ou un port de queue ne veulent pas dire, même un chien qui remue la queue ne veut pas toujours dire que son chien il est content. Donc il faut toujours prendre les choses dans son contexte. Et après, le comprendre, on fait au mieux pour le comprendre. Et des fois, même moi qui suis professionnelle là-dedans, bah, parfois, il y a des choses qui m'échappent et qui fait que je dois revoir, re-réfléchir et même des fois faire appel à des collègues aussi pour arriver à comprendre totalement une situation qui peut être beaucoup plus compliquée que d'autres.
Mais ouais, ce que tu disais, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de choses à appliquer très vite. Ça me fait penser un petit peu, et on en parlait en préparant cette émission, comme pour les humains où il y a des thérapies, il y a énormément de thérapies. Je te posais la question de savoir si c'était la même chose dans le domaine animalier et pour les chiens notamment, s'il y a beaucoup de formations de justement d'éducateurs canins ou de comportementalistes, comme un marché, on va dire, complètement libéré, comme c'est le cas pour les thérapies et toute forme de soins chez les humains. Tu me disais que oui, c'était la même chose.
Voilà, c'est malheureux, mais pour être éducateur et comportementaliste canin, il n'y a qu'une seule formation obligatoire d'un terme légal, c'est la CACED. Ça se peut passer en 2 jours. En plus, on n'y voit quasiment pas de comportement, donc je trouve que c'est un petit peu aberrant. C'est surtout pour les éleveurs, d'ailleurs. Et il y en a qui ouvrent leur entreprise juste avec ce diplôme-là, puisque bah, légalement, on leur autorise. Mais ce qu'il faut, c'est se former, parce que sinon on peut pas éduquer un chien si on sait pas le faire, en fait, tout simplement. Et là, pour se former, il y a plein de formations qui existent, possibles et inimaginables. Et je pense que c'est à la personne d'aller vers ce qui lui correspond le plus, mais surtout, de toute façon, après on apprend un peu sur le tas et aussi en se rendant sur le terrain. Mais ce qui est bien, c'est de faire plein de formations, moi c'est mon cas, et après d'aller piocher à droite, à gauche, il n'y a pas qu'une vérité en fait. Et puis si j'ai par exemple un collègue qui travaille différemment, du moment que c'est dans le respect du chien et qu'il a des résultats, mais moi ça me va vraiment totalement. Mais le problème c'est qu'il y a des gens qui font des choses désastreuses parce qu'ils sont mal formés et celui qui paye les conséquences, c'est le chien. Et moi on m'appelle, quand on m'appelle, je suis rarement la première professionnelle qu'ils ont vue. J'espère être la dernière. Enfin, je suis la dernière du coup parce que bah, j'ai quand même beaucoup de résultats, mais c'est pas moi personnellement. C'est parce que vraiment j'ai toutes ces formations. C'est des formations continues. Là encore cette année, bah, je me suis engagée dans une formation avec les plus grands comportementalistes mondiaux qui s'est tout traduit avec des traducteurs. Enfin, vraiment pour dire, il faut se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les cas compliqués, les chiens compliqués. Il me forme aussi, en fait, parce que ça me pousse dans mes retranchements et ça fait qu'à chaque fois, on s'améliore.
C'est une véritable passion.
Ouais, c'est une véritable passion, oui.
Ouais, et que t'as... Qui a commencé quand ?
Alors moi, j'ai toujours eu des chiens. J'ai commencé dans le sport canin, j'avais 6 ans. J'ai fait des concours d'agility avec ma chienne très rapidement. C'était un Shapendoz. On ne connaît pas trop cette race-là, mais ça mérite d'être dit. Elle s'appelait Smarties.
Et vraiment, Smarties.
Vraiment, ma passion est arrivée de là. Donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Bon, après, j'ai été aide-soignante et le Covid est passé par là. Donc, comme beaucoup, ça a créé une reconversion. Mais c'est, oui, clairement, c'est une passion. Ce qui peut être aussi un petit peu... Il faut faire attention avec les métiers passion, parce que du coup, ça prend beaucoup de place aussi dans la vie. Mais franchement, c'est super chouette, quoi.
Peut-être un dernier conseil avant la fin de cette émission. Surtout, donc, on rappelle, il n'y a aucune situation désespérée.
Aucune.
Aucune situation désespérée, et en tout cas, si on veut partir sur le bon pied, les petits chiots de 2-3 mois,
sortez-les.
On les sort, on les sociabilise. Ok. Eh ben, en tout cas, toutes ces questions, parce qu'il y a plein de. Ouais, ça soulève plein de questions passionnantes. Vous pourrez les poser, c'est ce jeudi à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Germain, grâce à l'association Yaka. Une petite anecdote pour finir. Un cas que vous aimeriez, que t'aimerais partager. Je te prends un peu à froid comme ça, mais...
Allez, je vais partager le cas d'Oslo. C'est celui qui me vient en tête. Ça, c'est un gros berger allemand. Pas gros, très mastoc. Et on m'a appelé, les gens étaient désespérés, ils pouvaient même plus aller le vacciner. C'est un chien très, très agressif avec tous les humains, les chiens de la société. Et les gens m'ont appelé totalement désespérée. Bon, l'urgence, c'était de lui refaire un bilan véto quand même. Et en fait, c'est un chien qu'on a éduqué quand même hyper rapidement avec des gens hyper investis. Et maintenant, Oslo, il sort de son jardin, il va manger au restaurant avec ses maîtres, il est sans muselière, la maîtresse vient d'avoir un petit bébé, ça se passe super bien. Et c'est une métamorphose totale dans la vie du chien, mais aussi dans la vie des maîtres. Il faut pas oublier ça. Hein. C'est qu'un chien qui a des problèmes de comportement, bah, les maîtres ont une vie où il faut un petit peu... C'est un petit peu compliqué. Et en fait, tout le monde retrouve un peu de l'oxygène et retrouve une vie normale, quoi.
Mmh, c'est ça, super. Merci beaucoup. Oui, chien et maître, c'est un être hybride, en fait. Hein.
C'est ça.
Merci beaucoup, Marie Lamarque, d'avoir été avec nous, et Claude Canner, aussi président de l'association IACA, jeudi 30 à la salle des fêtes de Saint-Germain. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de nos programmes, puisqu'à 13h, c'est Drôle de Dame et Vincent, toujours. À 15h, le Telex. À 17h, L'Onde Curieuse, la rediffusion de cette émission. À 18h, c'est Polymix et La Voix Off, avec Bienvenue au Village de l'Eau. L'épisode 6, dis donc, épisode 6, des naturalistes des terres. À 20h, c'est Salut à toi, la rediff, et à 21h, c'est Metal Zone. Nous, on se retrouve jeudi pour une émission dont vous aurez la surprise. Ciao.